6, 5, 4, 3, 2, 1.
Extramuros.
Extramuros.
Radio Évasion sort de ses murs.
Radio Évasion sort de ses murs.
En direct et en public.
En direct et en public.
Extramuros.
Bonjour et bienvenue dans notre deuxième émission Extramuros sur Radio Évasion, en direct du premier salon du vin nature et l'illustration organisé au FOU sur une initiative de l'association Port d'Attache basée à l'hôpital Canfrout. Alors ce salon a lieu aujourd'hui samedi jusqu'à 19h, demain dimanche de 10h à 16h. Il a lieu dans la rue du Général de Gaulle qui est pour l'occasion réservée aux piétons et très animée, je peux vous le garantir. C'est aussi dans la librairie Café Gwenelli, qui est une des organisatrices de ce salon et devant laquelle est installé notre studio avec Frédéric Montfort aux manettes de la réalisation. Alors c'est un salon donc des vins nature d'un côté, des illustrations de l'autre. Parfois ça se mélange, parfois pas. Alors ce matin on a surtout parlé du vin, cet après-midi on va se tourner vers les dessins et on va commencer avec une invitée du cru, si j'ose dire, Juliette Zanon. Bonjour Juliette.
Bonjour.
Alors de l'hôpital Canfrout, c'est ça?
Ouais, j'habite à l'hôpital Canfrout et mon atelier est à Daoulas.
Ouais. Et quel genre d'artiste êtes-vous alors, Juliette?
Moi, du coup, je suis. C'est vrai que c'est assez spécial parce que c'est nature et illustration. Moi, je me sens pas du tout une illustratrice, mais une artiste brute, on l'appelle ça. Je fais des. Je crée pour ma thérapie un peu, quoi, en fait.
Ouais. Ah bon? C'est venu comment? Comment est-ce qu'on devient artiste? Est-ce qu'on est artiste de naissance ou pas?
C'est la survie. C'est la survie, ouais. Pour moi, en tout cas.
Vous avez toujours dessiné?
Par rapport au dessin.
Ouais.
Non, j'ai commencé à 18 ans parce que j'étais très mal dans ma peau. J'avais un eczéma très violent. Et je me suis mis à faire dans les carnets les dessins et à écrire. Et après, ça a fait boule de neige. Je me suis retrouvée j'ai été exposée dans une petite galerie d'art brut dans le Vieux-Lyon. Et puis là, en octobre, je vais être dans un musée à Bruxelles d'art brut.
Ouais. C'est vrai, un musée, carrément.
Ouais, carrément, la
consécration. Nous sommes très honorés, là. On était de toute façon, on était très honorés. Hein, mais... et donc, le dessin, au départ, c'était des dessins... Quand vous faisiez des carnets, c'était quoi comme style de dessin?
C'est des sortes de... C'est vraiment tout ce qui sortait de moi, comme ça, instinctivement. Il n'y a vraiment pas de... Je ne décide jamais ce que je vais faire avant.
C'était quand même figuratif à l'époque ou pas?
Il y a de tout. À l'époque, c'était beaucoup des histoires de visage comme ça, mais c'était des autoportraits et c'était surtout par rapport à mon mal-être hein, quand même, hein, tout ce que je faisais.
Et est-ce que ça va mieux maintenant?
Ouais, ça va mieux. Et maintenant, je fais des performances aussi que j'appelle plutôt rituels. Donc c'est des rituels de guérison aussi.
Alors par exemple, ça peut être quoi une performance?
Une performance, c'est pas un spectacle, mais ça s'en rapproche un petit peu. Moi, je fais des peintures au gant de boxe. En pensant très fort à quelque chose et donc je les numérote, je fais une série en fait de cette performance.
Et des peintures de quelle taille?
C'est des immenses peintures là.
C'est ça, ouais.
Ouais.
Et alors donc on s'installe, son matériel.
Ouais.
Et on peint tout de suite ou on commence par faire un rituel justement?
Moi les performances, ouais, c'est juste que le rapport public est très différent, c'est plutôt détaché. Je suis dans ma bulle et je fais ma peinture au gant de boxe.
Gantbox.
Je me défoule.
Ouais, c'est ça. C'est un défouloir. Et là, ce qui est exposé aujourd'hui au Salon des vins nature et de l'illustration, c'est... Alors, il n'y a pas de performance, hein, pour l'instant,
non.
En tout cas.
Non.
Mais alors, je crois qu'il y a quand même plusieurs types d'œuvres. Enfin, des catégories d'œuvres, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'il y a alors?
J'ai voulu montrer aussi mes grands formats qui sont plus dans les galeries ou qui vont être au musée et tout ça. Et puis après, moi, je dessine tout le temps. Alors, surtout les petits bouts de papier que je trouve... Donc là, voilà, je mets mon petit tas de dessins tout le temps. Je dessine beaucoup, beaucoup, quoi.
Et là, vous dessinez quoi? Enfin, en fait, c'est plus tellement figuratif, en fait, maintenant. C'est vrai?
C'est plutôt figuratif, t'as dit?
Non, c'est plus tellement figuratif.
Il y a de tout, quoi.
Ouais.
Parce que... Non, mais de toute façon, moi, j'ai pas appris à dessiner, donc je fais ça, ce qui me vient. Ouais.
Et alors, quelle technique? Avec quoi?
Alors, je dessine beaucoup avec un rotring. C'est de l'encre de Chine. C'est le truc qu'utilisent les gens qui font les cartes ou les architectes.
C'est une pointe très fine, c'est ça?
Ouais,
et
voilà.
C'est quoi? C'est de l'encre ou c'est...
Ouais, c'est de l'encre de Chine.
D'accord.
Et après, j'utilise beaucoup l'aquarelle. Et après, quand je fais des grands formats, l'acrylique aussi, et des collages aussi. Beaucoup de collages.
Oui, c'est ça. J'ai cru voir des petits formats, mais aussi des petits... C'est des sortes de petits portraits amusants, non? C'est ça? Un peu loufoque, enfin...
Oui, je fais des petits personnages.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Bon, et quoi d'autre encore
Que je fais?
Ouais.
Bah non, bah là, je me suis mis un peu des fois à faire des sortes de sculptures, mais c'est un peu...
Bon,
c'est pas terrible quand même. C'est vraiment... C'est pour moi. De toute façon, tout ce que je fais, c'est d'abord pour moi, hein, mais je fais un petit peu de sculpture aussi. Mais
ouais,
c'est
mais
des... Ça s'appelle jusqu'à ce que ça tienne, quoi. J'attache les trucs... C'est jusqu'à ce que ça tienne.
C'est quoi, c'est de la sculpture en quoi? En fil? En fil de fer?
Beaucoup de trucs que je récupère, des petits objets. Non, des petits objets, des bibelots, des... J'aime bien coller, je collectionne beaucoup de trucs. Genre les papiers de bonbons, je collectionne plein de petits trucs, quoi.
Oui, mais ça peut être beau de toute façon, hein. C'est ça. Et, enfin, moi je trouve en tout cas ce que vous faites, je le vois d'ici d'ailleurs, c'est beau. Et donc... Est-ce que vous arrivez à en vendre, par exemple?
Eh ben oui, carrément. Ouais.
Bah voilà, c'est ça.
Bah ouais, après plus dans, ouais, j'ai des collectionneurs dans l'art brut en fait, donc qui m'achètent les œuvres assez chères, ouais, donc ils me collectionnent. Et c'est d'où, c'est pour ça que je vais être dans un musée, c'est parce que ma première galeriste, toute leur collection a été exposée dans ce musée, et la nana du musée m'a rappelé qu'elle aimait bien mes œuvres, et elle voudrait en réexposer d'autres.
Comment est-ce qu'il s'appelle le musée exactement?
Arrêt Marge.
À Bruxelles.
Ouais.
Et combien d'œuvres seront exposées?
Trois assez grandes pièces. Ouais.
Et en permanence, en collection permanente ou
Et bah, ils vont m'en acheter une pour la collection permanente, a priori, mais là, déjà, c'est pour une expo collective, une expo temporaire. Ouais.
Ça s'appelle la consécration, ça.
Ouais, quand même. Hein.
mais vous allez rester dans le Finistère, quand même.
Ouais, je pense. Ouais.
Et qu'est-ce que vous aimez dans le Finistère pour travailler? Enfin, qu'est-ce que...
Puis moi, je fais pas que ça, je fais la musique, je suis pianiste aussi. Et je viens du cirque à la base. Enfin, je suis un peu éparpillée. Dans...
Et vous faites partie de l'association Peur d'Attache, enfin, du collectif en
non,
tout cas?
Non, mais c'est des amis, parce qu'ils habitent pas loin.
En fait, c'est comme ça qu'ils ont eu l'idée de vous inviter ici. Quoi.
Ouais.
En fait, c'est ça. Vous faites partie de leur... Mais ils nous ont dit ça ce matin, qu'ils avaient invité des amis, en fait.
Ouais.
Des amis de grand talent. Bon, et alors le vin?
Et le vin, bah, moi je suis bourguignonne. Alors le vin, c'est vrai que j'aime bien le vin, ouais.
Même si elle est en train de... En fait, les auditeurs ne le voient pas, mais elle a une bière à côté d'elle.
C'est cool de voir des vins et dessiner, en tout cas, c'est pas mal.
Bon, bah, c'est bien. Bon, bah, alors on invite les auditrices et les auditeurs à venir à ce salon qui est franchement sympa. Des vins nature et l'illustration, c'est au fou, c'est dans la rue principale, la rue Charles de Gaulle, qui est piétonne pour l'occasion. Et vous verrez notamment Juliette Zanon et d'autres artistes du vin ou artistes du dessin, on va dire, en fait. Merci. Merci Juliette.
Merci, au revoir.
Au revoir.
La voilà la jolie vigne, la terre en vigne, la voilà la jolie vigne, vigne, vignon, vignon, le vin, la jolie vigne, vin, vigne, vignon, vignon, le vin, la jolie vigne, vin, la vignon trait, la voilà la jolie trait, la vignon trait, la voilà la jolie trait, 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 le vin. La jolie trait au vin, trait, 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 le vin. La jolie trait au vin. La trait en sait, la voilà la jolie sait. La trait en sait, la voilà la jolie sait. Sait, 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 le vin. La jolie sait au vin, sait, 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 le vin. La jolie sait au vin. La c'est en huche, la voilà la jolie huche. La c'est en huche, la voilà la jolie huche. Ici, chaud, il chante le vin. La jolie huche vin, ici, chaud, il chante le vin. La jolie huche vin. Là, il j'en cuve, la voilà la jolie cuve. Là, il j'en cuve, la voilà la jolie cuve. Cuve, qui vend le vin. La jolie qui veut vin, qui veut, qui vend le vin. La jolie qui veut vin, la qui veut cruche. La voilà la jolie cruche, la qui veut cruche. La voilà la jolie cruche, cruche, cruchon, cruchon le vin. La jolie cruche vin, cruche, cruchon, cruchon le vin. La jolie cruche vin, la cruche en vin. La voilà la la jolie verre, la quiche en verre, la voilà la jolie verre, Verron le vin, la jolie verre, vin de Riveron, Verron le vin, la jolie verre, vin, la terre en vigne, la voilà la jolie vigne, la terre en vigne, la voilà la jolie vigne, vigne, vignon, vignon le vin. La jolie vigne vin, vigne, vignon, vignon le vin. La jolie vigne vin.
6, 5, 4, 3, 2, 1.
Extramuros.
Extramuros.
Radio Évasion sort de ses murs.
Radio Évasion sort de ses murs.
En direct et en public.
En direct et en public.
Et nous sommes donc au Fou où a lieu le salon du vin nature et de l'illustration aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a écouté le cycle du vin, c'était le groupe North Cape. Alors c'est jusqu'à 19h ce soir et demain dimanche c'est de 10h à 16h, vin nature et illustration. Alors c'est deux sujets qui se rejoignent ou qui ne se rejoignent pas toujours. Ce qui les rapproche en fait c'est le fait que c'est un art de faire du vin nature surtout. Alors là notre invité va nous le confirmer, je suppose c'est une vigneronne. Elle s'appelle Pauline Mourin, elle est de Plougastel, voyez-vous, et elle fait du vin. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Alors, à quel endroit est-ce que... Oui ? Alors, on n'entend pas Pauline.
Oui, vous m'entendez ?
Oui, ouais. C'est bon. Alors, à quel endroit est-ce que vous faites du vin ?
Alors, on fait du vin avec mon conjoint à 20 km au sud de Saumur. C'est une commune viticole qui s'appelle le Puy Notre-Dame.
Et ça ressemble à quoi comme domaine ?
Le domaine qu'on...
Ouais.
Alors nous, on a 6 hectares de vignes.
Donc c'est assez petit, c'est ça ?
Oui, c'est assez petit. C'est la bonne surface pour être pour en vivre tous les deux. Et pour y travailler tous les deux, pour rester sur le terrain, on va dire aussi. Et puis, on a repris les vignes en 2016.
Ah ouais, c'est récent.
Donc c'est assez récent. Ouais.
Et votre conjoint, il est breton aussi ? Non,
non, il est savoyard.
Et vous étiez, enfin, lui, il était dans le vin. Enfin, au départ, il y en avait un des deux qui était un peu dans le vin, quand même.
Non, pas du tout. C'est-à-dire que donc, on s'est rencontrés en faisant une école d'ingénieur à Strasbourg. Et c'était ingénieur, pas du tout dans l'agro.
Ah
mais
oui, c'est ce que j'avais demandé.
On a fini nos études quand même, et puis on a travaillé un an après nos études, et on est parti voyager pendant 2 ans en Australie. Et c'est pour ça que notre domaine s'appelle l'Austral. Et c'est au cours de ce voyage qu'on a travaillé dans le vin, un petit peu par hasard.
Et vous faisiez quoi, par exemple ?
Ben, on a travaillé dans un grand domaine viticole. Et voilà, c'était vraiment par hasard au départ. C'était pour faire un travail saisonnier et gagner un peu d'argent pour voyager. Et puis finalement, on a bien accroché à ça. Parce que pour nous, ça allait de la vigne jusqu'à la commercialisation des vins. On trouvait ça chouette. Et donc, en revenant en France, moi, j'ai repris des études dans le vin. J'ai fait un diplôme d'œnologue à Dijon.
Et ça, c'est assez poussé. Même quand on a fait les études d'ingénieur avant, c'est assez long, non, l'œnologie ?
Normalement, c'est un diplôme qui se fait en 5 ans. Et puis moi, ils ont accepté que je vienne pour les 2 dernières années, on va dire, parce que j'avais ce diplôme d'ingénieur avant. Voilà.
D'accord.
Et puis c'est au cours de ce diplôme-là, enfin pendant ce diplôme, que j'ai fait un stage du côté du Puy Notre-Dame chez un vigneron qui travaillait du coup en bio et puis plus en vin de terroir et nature, et qu'on a accroché dans la passion du vin, quoi. Les vins qu'on a envie de faire aujourd'hui, c'est-à-dire des vins vivants, des vins qui reflètent le terroir, qui voilà, et c'est pour ça qu'on aime ce métier, quoi. C'est faire des vins de cette manière-là, quoi.
Et vous avez trouvé facilement une exploitation ou vous avez repris la sienne ?
Non. En fait, la personne chez qui j'ai fait mes stages au Puy Notre-Dame, là, le domaine Mélaric, c'est eux qui nous ont mis sur la piste de vignes qui se libéraient, d'un vigneron qui partait à la retraite, qui avait 20 hectares en agriculture biologique et biodynamique et qui cherchait à installer plusieurs jeunes.
Ah oui.
Voilà. Donc on est 4 à s'être installés sur les 20 hectares.
D'accord.
4 personnes à avoir monté des domaines différents et à exploiter des vignes sur les 20 hectares qu'avait Philippe Gourdon là au départ. On a chacun pris 4 hectares et nous après on a retrouvé des hectares de vignes, c'est pour ça qu'on est à 6 aujourd'hui. Mais,
voilà. Ah ouais. Et donc vous avez des salariés en plus ou à 2 sur les 6 hectares
Non, on n'a pas un salarié permanent, mais on a des saisonniers. Pour les vendanges, pour tirer les bois l'hiver, et puis pour les ébourgeonnages aussi pour le printemps. Donc voilà.
Il y a du travail.
Ouais, ouais. Il y a de quoi faire.
Et alors, le type de vin que vous faites, alors, qu'est-ce que c'est ?
Alors, le type de vin qu'on fait, nous, on a trois cépages différents, c'est-à-dire des variétés de raisins différentes. On a en blanc du chenin, qui est le cépage un petit peu phare de notre coin et de la Loire. C'est un cépage qui a beaucoup d'acidité, donc qui a une vraie fraîcheur. Il y a une vraie fraîcheur dans ces vins-là. Et puis, en rouge, on a du Cabernet Franc et du Gros Lot. Le Gros Lot, le Cabernet, c'est plus structuré. Et puis, le Gros Lot, c'est plus un vin, on va dire... glou-glou.
Ah ouais, c'est vrai.
Et voilà.
Et on mélange en fait. Enfin, c'est.
Ouais, alors on peut mélanger. Et puis donc, bon, nous, donc dans les vignes, on est en agriculture biologique. Et puis derrière, on vinifie de la manière la plus naturelle possible pour en fait essayer de faire parler le terroir dans les vins. Alors, faire parler le terroir dans les vins, c'est quoi ? C'est refléter un sol, refléter une année, un millésime. Refléter un cépage et puis refléter finalement l'homme ou la femme qui fait le vin, quoi.
Ouais, c'est des vins, voilà, qui ont une personnalité.
Voilà, c'est ça.
Et vous, dans votre cas, c'est des vins bio ou c'est des vins nature ?
Alors, c'est quoi pour vous la différence ?
Bah, c'est-à-dire que ouais, je crois qu'en bio, on a le droit quand même d'ajouter certains produits, alors qu'en nature, ouais, on n'en ajoute aucun.
Oui, c'est vrai. En fait, au départ, vin nature, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas vraiment de réglementation pour ça. Depuis cette année, le syndicat des vins naturels a fait un gros travail là-dessus. Donc maintenant, il y a une charte, en fait. Donc nous, on est en agriculture biologique dans les vignes. Et dans les vins, on ne rajoute pas d'intrants, mis à part des doses très faibles de sulfite avant les mises en bouteille. Donc ça veut dire qu'on est finalement en nature. Voilà.
Bon, d'accord. Voilà. Et alors, vous disiez, donc ça fait finalement assez peu de temps quand même que vous êtes vigneronne, vous.
Ouais.
Mais alors, vous ne regrettez pas, vous êtes contente?
Non, pas du tout. C'est un métier qu'on a choisi. Le vin, quand on commence à accrocher, enfin, en tout cas à s'y intéresser, nous, ça nous a fait cet effet-là. C'est-à-dire que la passion du vin, elle vient vite. Donc, c'est un vrai métier passion. Voilà, de pouvoir travailler avec un produit vivant, c'est passionnant. Et puis c'est jamais le même vin d'une année sur l'autre. Et
oui,
quand je vous parle de vin de terroir, c'est vraiment ça. Et non, c'est...
Mais c'est pas un problème, ça, d'avoir des vins différents d'une... Enfin, ils sont peut-être pas si différents que ça d'une année sur l'autre. Ils ont peut-être quand même une constante.
Ouais, non, c'est pas un problème, parce que je pense qu'on s'adresse à un public qui est prêt à... Enfin, que ça passionne aussi. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si on veut faire le même vin chaque année, on tombe dans les vins industriels. C'est comme l'agroalimentaire. Dans des produits plus industriels, bon, on va toujours le même produit. Et puis, dès qu'on travaille avec le vivant et qu'on laisse un petit peu les vins s'exprimer, quoi, ben, forcément, il n'est pas le même d'une année sur l'autre, puisque le climat change, en fait.
C'est ça, justement. Donc, ouais. Est-ce que vous, dans le Saumurois, vous constatez des changements climatiques, et lesquels ?
Ouais, ben, nous, en 2016, en 2017, on taillait sous la neige et puis... Et puis en 2020, on taille sous 25 degrés, donc ouais, en février. Donc oui, on constate un changement là depuis peu, parce que nous, ça fait que 5 ans qu'on est installé, mais en 5 ans, on le voit bien. Et le gros problème, c'est qu'il fait chaud l'hiver, en fait. Il fait chaud l'hiver, donc les bourgeons...
Trop par rapport à ce que demanderait le vin, quoi.
Oui, trop, parce que les bourgeons éclatent. Donc ça veut dire que quand il y a des gels, les seins de glace, hein, qui ont toujours eu lieu, hein, le gel, il y en a toujours eu, mais ça gèle
le gel
la
tardif,
fleur,
quoi, ouais.
et ça gèle pas le bourgeon. Parce qu'un bourgeon dans sa coquille fermée, s'il gèle, c'est pas grave.
Enfin, c'est ça. Dire,
mais c'est quand c'est en fleur que c'est embêtant, quoi. C'est quand il débourre, en fait, le bourgeon.
Et faire du vin nature, c'est plus difficile que de faire du vin conventionnel ou pas, ou...
Alors, pour avoir fait les deux, parce qu'en Australie,
ah oui,
du coup, quand on a travaillé en Australie, on était sur des vins plus conventionnels.
Oui, j'imagine.
Les vins plus conventionnels, on a des garde-fous de partout, on est hyper sécurisé. Donc, pour moi, c'est plus simple dans le sens... c'est une recette à
tout
appliquer,
est
quoi, on va,
ouais,
dire.
Mmh.
Alors, après, ça dépend ce qu'on appelle vin industriel, mais là où j'ai pu travailler en Australie, c'était on recevait du service commercial, en tout cas, le vin, cette année, on aimerait bien qu'il ait ce goût-là, de pamplemousse, etc.
Ah ouais.
Donc derrière, on ajuste, en fait, dans les cuves, en mettant plus ou moins de sucre, plus ou moins d'acide, plus ou moins de levures qui vont faire des arômes de pamplemousse, etc. Donc ça, c'est l'extrême, hein, de l'industrie, on va dire, du vin. Et dans les vins plus naturels, ce qui est chouette, c'est qu'on... la question, c'était est-ce que c'est plus dur, c'est plus, en tout cas, c'est beaucoup de vigilance, quoi.
C'est ça, surveiller.
Qui n'est pas la même, mais c'est beaucoup de vigilance. C'est-à-dire que nous, on travaille beaucoup au microscope. pour regarder, parce que finalement c'est du vivant, donc on regarde les levures, on regarde les bactéries. En fait, on travaille avec très peu de marge de sécurité. Et c'est ça, ça qui est plus dur, mais qui est à la fois passionnant. Et puis nous, on a petit, on a une petite exploitation. J'aurais 300 hectares à mener. Je travaillerais peut-être différemment.
Mais
ce que je veux dire, c'est que oui, il y a une. Pour moi, c'est de ce que j'ai vu, ça fait pas très longtemps qu'on fait du vin, c'est quand même plus compliqué.
Ouais, mais plus satisfaisant.
Il y a besoin d'être beaucoup plus vigilant.
Mais plus intéressant.
Et par contre, oui. C'est ça. Oui, c'est pas le même métier pour moi.
Et petite exploitation, est-ce que ça veut dire que vous connaissez vos clients ou est-ce que vous passez quand même par des cavistes?
Non, alors, on a beaucoup de clients cavistes, restaurateurs. Des importateurs aussi, et puis des particuliers. Donc en fait, est-ce qu'on les connaît? En fait, je crois qu'on les connaît tous.
Ce sont des curieux,
presque.
C'est ça en fait.
Oui,
c'est quoi le profil?
C'est des gens amateurs, quoi. Ouais. Amateurs de vin et voilà, c'est souvent cavistes indépendants, des restaurateurs qui. Voilà, souvent on vient à nous ou on. Ou nous on va à eux par des salons ou par du démarchage. Mais oui, on les connaît. Ouais.
Vous n'avez pas de mal à vendre votre vin de toute façon?
On n'a pas de mal parce qu'on ne fait pas rien.
Ah bah vous travaillez pour, j'imagine.
Ouais, voilà. Mais parce qu'on ne fait pas rien dans le sens où on fait goûter aussi nos vins, quoi. Mais il ne faut pas croire que quand on s'installe, on vend tous nos vins comme ça, quoi. Non, c'est pas vrai ça. Nous, on a beaucoup circulé en camion, aller faire goûter les vins, aller les faire goûter à la rencontre des clients, quoi, finalement.
Ouais. Éduquer un peu la clientèle aussi ces vins nouveaux, quoi. Enfin, voilà. Oui, c'est nouveau, ça reste encore.
Ouais, c'est éduquer la clientèle et on a les intermédiaires qui le font très bien, quoi. Y a beaucoup de cavistes qui. Enfin, le travail du caviste, il est vraiment là, c'est les ambassadeurs de nos vins, quoi.
C'est ça. Donc, voilà. Ouais. Alors, j'ai une question qu'on doit souvent vous poser, mais ce qui est nouveau aussi, c'est qu'on voit de plus en plus de femmes dans le vin. Enfin, moi, j'ai l'impression, mais peut-être
oui,
que je me trompe.
Ouais.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Bah, si, c'est vrai. Il y a de plus en plus de vigneronnes, c'est vrai. Moi, c'est un monde que je ne connaissais pas trop avant. Du coup, c'est compliqué pour moi d'en parler. Parce que le vin, j'y suis venue il n'y a pas si longtemps, quoi. Je n'y connaissais rien avant. Moi, je suis de Plouguestel, il n'y a pas de vigne, il n'y a pas de. Voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes. Après, si je réfléchis dans mes études dans le vin, c'était à peu près moitié-moitié dans la classe.
Oui.
Mais c'est vrai qu'on en voit de plus en plus sur les salons et c'est chouette, c'est bien.
Et quand vous étiez, de toute façon, quand vous faisiez votre diplôme d'œnologue, elle ne se destinait pas toutes, enfin les élèves ne se destinaient pas tous à faire de la production.
À vigneron. Non.
Ouais,
non.
C'est ça.
Enfin, si, œnologue, c'est production. Hein.
Quand même,
c'est
pas
sommelier.
D'accord.
Sommelier, c'est plus hôtel, enfin restauration, dégustation, etc. Mais le diplôme d'œnologie, il mène à des métiers dans la production.
Mais c'est vrai que si on travaille pour une très grosse exploitation, ça n'a quand même rien à voir, on n'a presque pas les pieds dans la terre, en fait.
Non, le métier d'œnologue, quand on fait le diplôme, c'est souvent, les gens qui sortent, c'est plus pour gérer le chai, en fait. Donc ça veut dire le travail au chai, donc gérer toutes les vinifications d'un domaine ou d'une grosse cave coopérative ou alors travailler dans des labos d'œnologie. Mais c'est vrai qu'il y en a très peu. Moi, dans ma classe, je crois qu'on est 3 ou 4 à être vigneron, quoi. C'est-à-dire
c'est
à faire à la fois la vigne et le vin et la commercialisation.
Et donc, vous avez dû passer en plus des formations pour compléter l'œnologiste?
Vigne, ça a été beaucoup sur le terrain.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Oui.
On s'est formé sur le terrain, donc on a fait beaucoup d'erreurs.
Oh, ben, c'est la vie. Hein.
Voilà.
Bon, et ben Pauline Mourin, merci. Alors, je dis, alors votre compagnon, il s'appelle Laurent Touba. Vous avez donc vos vignes qui sont à Puy-Notre-Dame, à côté de Saumur, et le vin, le domaine, s'appelle l'Austral, c'est ça?
Oui.
Bon, et ben merci beaucoup.
C'est ça.
Et bonne continuation dans le monde merveilleux du vin. Là-dessus.
Merci beaucoup.
En direct et en public.
Venez donc au Fou, petite cité de caractère et port d'intérêt patrimonial, où la saison touristique est belle et bien lancée, vous l'entendez, hein, on entend les fanfares. Dans ce salon, premier du nom, salon du vin nature et de l'illustration, aujourd'hui jusqu'à 19h. Demain, dimanche, ça sera de 10h à 16h, c'est rue Charles de Gaulle. Vin, nature et illustration. Alors, il peut y avoir des passerelles entre les deux sujets. On peut dire qu'ils se rejoignent dans le cas d'Aurore Colliou, car cette illustratrice de Anvec, qui est une des exposantes du salon Vin Nature, elle s'est spécialisée dans le dessin de la nature. Elle va nous expliquer.
J'ai suivi une école des beaux-arts, celle de Quimper. Et en parallèle, je m'intéressais déjà pas mal aux plantes et j'ai eu envie d'en savoir un peu plus parce que toute seule, j'arrivais plus à assouvir ma curiosité. J'ai ressenti le besoin d'être plus cadrée et du coup, j'ai fait une formation d'herboriste. Et dans le cadre de cette formation d'herboristerie, là, j'ai rencontré tout simplement l'illustration botanique d'abord. Et puis, j'ai commencé toute seule et au fil des dessins, je me suis plus arrêtée.
Parce qu'en fait, pour faire de l'illustration botanique notamment, mais même des animaux, parfois il faut des connaissances biologiques, il faut aussi faire de la biologie, non ?
Ah bah tout à fait, mais de toute façon, le dessin d'observation, c'est vraiment un super système d'apprentissage. Quand on a une plante devant soi et qu'on l'observe pendant des heures, on la connaît bien après, et toutes ses parties, oui.
Et par exemple, sur une plante, combien de temps vous mettez à faire un dessin d'illustration ?
Donc un dessin format 4, ça prend plusieurs heures, parfois une journée, selon les plantes qui ont des difficultés différentes à représenter. Après, j'ai des très grands dessins format raisin, et là, c'est plusieurs jours de travail.
Et les animaux, là, par exemple, il y a une magnifique, je crois que c'est une libellule, une demoiselle. C'est une demoiselle, peut-être, non ?
C'est la nymphe de feu. Elle s'appelle comme ça parce qu'elle est rouge.
D'accord. Et donc, celle-ci, vous ne l'avez pas immobilisée, alors vous avez travaillé sur photo, comment vous avez fait ?
Ouais, alors du coup, pour les plantes, c'est vrai que dès que c'est possible, je privilégie vraiment de travailler de visu, quoi, avec le vivant. Et, par contre, pour les dessins d'animaux, comme c'est du dessin vraiment de patience et qui demande beaucoup de temps, évidemment, ils ne posent pas pour moi. Et donc, dans ce cas-là, je fais beaucoup de recherches d'images et je travaille avec des banques d'images différentes. Et voilà, et du coup, c'est de l'observation d'après plusieurs photos. Pour avoir des détails à la fois, si c'est un oiseau, du plumage, de la tête, du bec, des pattes. Donc je travaille avec beaucoup de détails de photos et après j'essaye de faire mon image à moi, quoi.
Ah ouais, des gros plans, quoi. Ouais.
Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, en fait, le travail d'illustrateur naturaliste a encore bien sa place, même à l'ère du numérique, parce que l'illustrateur va mettre en évidence toutes les caractéristiques de l'espèce. Il va pouvoir représenter l'espèce à la fois en gros plan, mais aussi de façon générale, et puis vraiment mettre en évidence tout ce qu'il faut pour la reconnaître.
Ouais, c'est ça. Ça reste un dessin documentaire, en fait. C'est ça, on peut dire ça. Hein.
Oui, aussi. Et puis là, dans le cadre de ce travail, tant qu'à faire, autant le représenter de façon esthétique. Donc, c'est une dimension quand même artistique aussi. Ouais. Par ailleurs, mon travail, il va s'agir d'illustrer des flores, des dépliants, des panneaux de signalétique dans des sites remarquables, etc.
Il y a du boulot.
Il y a du travail, oui, ça va. Donc voilà, pour ce qui est des aquarelles, donc, je dessine un dessin déjà bien précis. J'utilise la loupe pour vraiment ne rien omettre des particularités et puis des détails de l'espèce que j'ai choisi de représenter. Donc c'est un travail, je le disais, d'artisan qui est réalisé donc exclusivement à la main, donc pas de dessin numérique. J'utilise un pinceau pour coloriser avec de l'aquarelle et c'est de la technique sèche. Donc le papier reste sec, il n'est pas humidifié comme on a l'image de l'aquarelle avec les grands lavis. Donc ici, c'est pas du tout ça. J'utilise peu d'eau et pas mal de pigments. Et il s'agit au début de passer un lavis très clair sur les parties à coloriser et de monter progressivement la teinte, donc en plein de passages successifs de pinceau. Et c'est ça qui est très long en fait. Mais ce sont des dessins qui sont vivants et avec des couleurs très vives et de la matière.
Des dessins vivants comme le vin, nature qui est vivant. Aurore Colliou, donc elle a réalisé en plus une exposition de ses dessins mais aussi de ses créations en vannerie sauvage et une installation également et une vidéo. Et cette exposition, c'est autour du roman d'Henri Bosco, L'enfant et la rivière. Et c'est à voir en ce moment à la maison de la rivière de Sizun, tout l'été et même au-delà. Et là, au salon des vins, nature et illustration du fou, Aurore Colliou vend des cartes postales de ses dessins.
Des fraises, des cerises, un baiser d'ange au printemps. Mon vin d'été a toutes ses saveurs en même temps.
I walked in town on silver spurs that jingled too.
But a song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time. And I will give to you summer wine. Summer wine.
Des fraises, des cerises, un baiser d'ange au printemps. Mon vin d'été a toutes ses saveurs en même temps. Enlève tes époux, fais-moi tout oublier. Et je te donnerai du vin.
They could not speak. I tried to get up, but I could not find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Summer wine. She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine. Summer wine.
Des fraises, des cerises, un baiser d'ange au printemps. Mon vin d'été a tous ses saveurs en même temps. Enlève tes éperons, fais-moi tout oublier. Et je te donnerai du vin d'été.
Summer Wine, c'était la version Clara Luciani et Alex Krapanov. Summer Wine, le vin d'été, ben oui, nous y sommes au Salon du vin nature et de l'illustration. Ce week-end, rue du Général de Gaulle, au Fou, petite cité de caractère, port d'intérêt patrimonial. Ça vous fait beaucoup de raisons, de bonnes raisons de venir jusqu'à nous. Le salon, c'est jusqu'à 19h ce soir et puis demain de 10h à 16h. Notre émission est en direct jusqu'à 18h et on va passer du vin au dessin. Et là, c'est dessin, donc, avec de jeunes artistes venus de Bruxelles. Et ils sont représentés par Fiona Meignier. Bonjour Fiona.
Bonjour.
Alors, ce collectif belge d'illustrateurs, qui n'est pas belge, mais on le dira pour tout à l'heure pourquoi, mais vous avez plusieurs missions dans ce salon. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement?
Alors, du coup, on avait la mission de faire une grande fresque de 7 mètres et, sur laquelle on a fait du coup des tâches de la vie et où les, du coup, les personnes illustrateurs aussi dans le festival vont pouvoir dessiner autour de ces tâches qui les inspirent. Et nous aussi, on va amorcer ça demain. Et on va faire une autre fresque aussi de 3 mètres qui sera exposée un peu plus loin. Et là où nous, du coup, on a prévu de faire un dessin aussi avec des tâches, etc. pour mélanger chacun nos particularités en fait, esthétiques. Voilà.
Donc des dessins en progression qui seront finis à la fin du salon.
Exactement.
On va dire ça. Et puis alors, il y a un happening étiquette auquel vous participez. Alors, c'est quoi cette happening étiquette? Alors là, justement, c'est la passerelle entre le vin et l'illustration.
Exactement. En fait, les gens viennent avec leur bouteille vierge et nous, on a des petites étiquettes et on fait des dessins. Alors, les gens peuvent nous demander un dessin particulier ou sinon, on en fait à l'avance. Et voilà, tout ça autour du vin et puis avec nos propres techniques, nos propres outils. Et tous les illustrateurs le font et tout... Mon équipe aussi y est.
Alors, une équipe de 5 personnes en tout, c'est ça, 5 artistes.
Ouais, 5 artistes, du coup, 5 jeunes diplômés aussi. Du coup, pas de Bruxelles, mais nous sommes étudiants à Bruxelles, du coup, à l'Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles, les Beaux-Arts de Bruxelles, en fait.
Et aucun d'entre vous n'est belge, en fait.
Aucun d'entre nous n'est belge.
Vous êtes tous français ou...
On est tous français. Du coup, Céline, Mathéo et Lila viennent de Paris. Moi, je viens du Vercors et Pauline vient de Saint-Raphaël. Voilà, donc on est un peu venus des quatre coins de la France.
Et alors, pourquoi est-ce qu'on va à l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles quand on est français?
Et bien, parce qu'en fait, à l'Académie, il y a une section qui s'appelle Illustration et qui propose en fait une formation pour être auteur-illustrateur. Donc du coup, on apprend de A à Z à faire un livre, que ce soit l'écriture, on apprend à écrire à une histoire, à la dessiner du coup, et puis aussi à construire le livre, donc à faire la mise en page, etc. Et du coup, c'est une formation assez professionnalisante qui n'existe pas forcément en France, et ce qui nous permet de sortir de là. Et en fait, on sort de cette école, on a déjà fait 4 livres. Donc voilà, c'est quand même assez rassurant et c'est assez prestigieux, puis c'est très intéressant en fait.
Ça dure combien de temps? C'est combien...
Alors du coup, là nous on est diplômés du bachelor en 3 années comme une licence en fait, et ensuite du coup c'est le master, donc 5 années en tout.
Et certains vont continuer, d'autres pas, enfin...
Voilà, exactement. Là, moi je vais continuer, Lila aussi, et Pauline, Céline et Mathéo vont arrêter. Céline et Mathéo étaient pris à Strasbourg.
Et d'autres formations.
D'autres formations pour faire un master en fait autre part.
Et parce que en fait, vous, le fait d'être auteur illustrateur, c'est pas forcément une évidence. Enfin, vous aviez tous envie d'être de maîtriser en fait le processus de A à Z, c'est ça? C'est quoi les motivations? Pourquoi est-ce qu'on voudrait être auteur illustrateur?
Il y a une certaine autonomie en fait du travail. Du coup, après, c'est pas forcément qu'on veuille être auteur illustrateur. Tout le monde veut pas forcément être auteur illustrateur, mais de pouvoir comprendre comment un livre se construit de A à Z, ça peut aussi nous permettre plus tard de travailler, par exemple, avec quelqu'un qui écrit. Du coup, on aura plus de notions. Faire les illustrations parce qu'on aura déjà fait le travail avant et on comprendra. Donc ça nous permet de nous ouvrir beaucoup de portes, comme des directeurs artistiques en fait, qui vont pouvoir voir plein de choses en fait et qui vont pouvoir être après à l'affût sur plein d'autres trucs.
C'est voilà. Ça, c'est la polyvalence qui est intéressante.
Voilà, c'est la polyvalence, c'est de savoir, puis même de se trouver aussi, est-ce qu'on est plus intéressé par le dessin, est-ce qu'on est plus intéressé par l'écriture, il y a des sensibilités qui se font, est-ce qu'on est plus intéressé par la mise en page
C'est la question que j'allais poser. En général, quand on choisit cette école, on a plutôt un prisme de dessin ou est-ce qu'on peut être plutôt écrivain puis se dire, tiens, je vais apprendre le dessin?
Je pense qu'il y a quand même le dessin qui prime, mais au final, il y a pas mal de personnes aussi qui sortent et qui finalement vont juste écrire, ou des personnes qui vont sortir de là qui vont peut-être juste faire la mise en page d'un livre ou les couvertures, etc. Donc le dessin prime effectivement, mais l'histoire, la narration, le fait de narrer quelque chose, le fait de faire une illustration qui dégage du coup de l'histoire, ça c'est ce qui prime vraiment.
Et là, les 5 qui sont présents aujourd'hui au Salon Vin Nature et Illustration du Fou, c'est quel style en gros? Vous, pour commencer.
Ouais, voilà. moi, je suis dans un dessin plus graphique. J'ai fait des études de graphisme avant. Je travaille beaucoup sur les paysages. Je fais très peu de personnages, par exemple. Mais j'ai un intérêt plus sur l'écriture de plus en plus. Donc, écrire des histoires. Je m'inspire de la vie des gens, de la vie de ma famille, etc. Des petits trucs et des petits détails un peu absurdes de la vie que j'aime bien mettre en valeur et des fois les dédramatiser ou en rire. Pauline, elle travaille beaucoup sur des images, elle fait de la photo en fait à côté, et du coup elle travaille sur des photos, elle les retravaille, elle fait du collage, elle fait de l'impression. C'est vraiment c'est comme des recherches en fait, tout son travail, tout son processus de création est comme une recherche, ça donne des choses assez chouettes. Mathéo, lui, est très observateur Et du coup, il s'intéresse à tous les petits détails, donc il va faire des dessins, ça ressemble presque à des schémas, en fait.
Naturaliste, justement.
Ouais, ouais. C'est... Voilà, il va découper des petits trucs, il va faire des petits calculs de combien d'oiseaux fait une vache, etc. Et du coup, il y a beaucoup d'humour dans ce qu'il fait, et les dessins sont très représentatifs, et on n'a pas de doute sur ce que c'est, par exemple. C'est pas du tout de l'abstrait, par exemple.
Très figuratif.
Ouais, très figuratif. Ouais. Et Lila, elle a un style très brut, ça clash, elle travaille beaucoup avec de la pastel et y a plein de c'est très maladroit mais c'est très maîtrisé aussi et c'est très, j'ai pas envie de dire trash mais on peut dire presque un peu.
Art brut peut-être là.
Ouais, c'est un peu plus brutal et c'est très drôle, il y a là des personnages avec des corps qui sont un petit peu tout mou, il y a quelque chose de très drôle dans ce qu'on voit. Et Céline, elle travaille. Alors elle, c'est très maîtrisé, ça fait très artistique, ça fait. C'est vraiment des très beaux dessins où elle passe énormément de temps et où ça pourrait être presque des expositions des fois. Et elle travaille beaucoup avec de l'acrylique et avec des aplats très bien faits. C'est très maîtrisé, Céline. C'est vraiment. C'est vraiment magnifique.
De toute façon, il faut aller voir, hein, tout simplement. Voilà. Et puis c'est tout, hein, au stand du collectif d'illustrateurs belges. On va les appeler comme ça, même s'ils ne sont pas belges, on l'aura compris. Juste la dernière question subsidiaire et piégeuse, bien sûr. Quand on est jeune artiste, comment est-ce qu'on voit l'avenir aujourd'hui là?
Ben, il faut être polyvalent, très clairement. C'est un peu difficile parce que du coup, ben, nous, on essaye de se faire une petite place. On voit que le secteur est bouché, on le sait, on ne fait pas ces études-là pour réussir et être connu et que ça marche tout de suite. Mais on fait ça aussi parce que on peut être sur différents lieux, on peut faire plein de choses, on peut faire du graphisme, on peut être dans un festival, on peut travailler avec des enfants, on peut travailler pour la presse, etc. Donc voilà, on sait qu'il faut maîtriser plusieurs outils, il faut avoir des expériences dans plein de domaines différents pour pouvoir s'y retrouver et puis même pour nous évoluer en fait dans plein d'autres choses.
Bon. Ben, on vous souhaite à tous bonne chance et puis déjà de bien terminer ce salon vin nature et illustration. Merci.
Merci.
Old Red Wine, The Woo, de la musique, du bon vin nature et de beaux dessins. C'est au Salon du vin nature et de l'illustration, c'est ce week-end rue du Général de Gaulle, au Fou. Alors vous avez une dizaine de vignerons et vignerons, dont la plupart fabriquent leur vin avec juste du raisin, c'est ça qui est beau, aucun additif, on laisse le vin s'exprimer dans toute sa splendeur. Venez au Fou, vous achetez un verre à 5 euros, vous dégustez avant d'acheter si vous voulez. Et en plus, des œuvres œnologiques, vous pouvez aussi acheter des œuvres graphiques. Alors voici encore une lampée d'illustration avec cette fois une artiste finistérienne, Violette Suquet, qui vit donc dans le Finistère, je ne sais pas où. Bonjour Violette.
Bonjour.
À quel endroit ?
À Logona.
À Logona, bon, c'est vraiment pas loin. Vous êtes ce qu'on appelle une illustratrice jeunesse, mais en fait, peut-être que vous n'étiez pas déjà au départ illustratrice jeunesse, si
Non, du tout. Ça fait que 2 ans en fait, que je pratique ce métier. Avant, j'étais directrice artistique.
Ah oui, quand même. Ouais. Vous étiez un peu dedans. Et alors, comment vous en êtes venue à devenir vraiment dessinatrice, en fait ?
Bah, je pense que c'est à un moment où on revient à ses premiers amours, en fait.
Ah ouais, vous aviez fait des études d'art, en fait ?
Moi, j'ai fait des études d'art, tout à fait. J'ai fait vraiment un parcours classique. Je me suis orientée vers un métier qui payait mes factures.
C'est ça.
Et qui était passionnant. Hein. Je me suis éclatée pendant 10 ans. Et puis, au bout d'un moment, j'en ai eu marre et je voulais faire autre chose, en fait.
Directrice artistique de quoi ? Enfin, de quelle,
ah, j'étais spécialisée dans le digital. Donc, je faisais beaucoup d'applications mobiles, de sites internet, de vraiment tout ce qui était digital. C'était un peu l'ère du digital, en plus. Donc,
bien sûr.
C'était chouette. On a fait plein de choses. Et puis après, j'ai fait le tour. Et...
Bah après, c'était assez nouveau, en plus. Donc, ça devait être intéressant, ce côté... C'était un nouveau monde, donc une nouvelle esthétique, définir une nouvelle esthétique dans ce monde-là.
Ouais, ouais, j'ai appris plein de choses et j'ai adoré, hein, j'ai vraiment adoré. Mais j'avais besoin de quelque chose de plus artistique, ouais, vraiment.
Et vous continuiez quand même à dessiner pendant ce temps-là, juste pour le plaisir ou...
Ouais, juste pour le plaisir, ouais, ouais.
Parce que là, vous dessinez, enfin, comment vous dessinez justement ? Comment est-ce que.
Moi, je travaille que sur tablette.
Ah, ouais. Quand même, il est resté quelque chose du numérique. Ah,
bah, ouais, ouais, ouais. Mais c'est aussi l'adage de la mère qui travaille en nomade. Donc, comme ça, je peux travailler pendant les cours de cirque ou de danse de mes enfants. Et je peux aller les chercher à l'école et puis rembaucher à 20h. Et j'ai tout avec moi, tout sur l'iPad, quoi.
Ouais, parce que sinon, quand on travaille pas sur tablette, on est obligé de trimballer tout son matos, ses crayons, ses couleurs, ses. D'accord.
Ouais.
C'est ça, donc, l'avantage de travailler en numérique.
Ouais, c'est ça. C'est, on travaille plus vite aussi.
Ah oui ?
Ouais.
Pourquoi ?
Enfin, en tout cas, moi, je travaille plus vite. J'ai des contrats en illustration dans des maisons d'édition qui sont assez short. Enfin, j'ai peu de temps pour les réaliser, donc j'ai besoin d'utiliser tout mon temps pour travailler et pour conjuguer ça avec la vie perso. Et ben, c'est vraiment pratique, en fait.
Bah d'accord,
on devient vraiment digital nomade et c'est top parce qu'on peut tout faire en même temps.
Bah c'est vrai que la radio aussi, on peut la faire en nomade avec assez peu de matériel finalement. Hein,
et
c'est...
des belles fanfares.
en arrière-fond, mais c'est très bien d'avoir la musique. De toute façon, ça vous montre qu'il y a vraiment de l'ambiance au Fou.
Ouais.
C'est vraiment sympa, il y a du soleil et tout. Ouais. Et donc, quand vous êtes dit, allez, je vais dessiner, enfin, je vais refaire mon métier, vous êtes dit tout de suite, je vais faire illustratrice jeunesse. Comment ça s'est fait ça ?
Bah, ça s'est fait. Enfin, c'était pas vraiment un choix. J'ai écrit une histoire avec ma maman qui s'appelle Anne-Catherine, qui s'appelle Paner Mamoun, qui a été éditée chez Kate Vimbeo. Et en fait, on avait écrit cette histoire il y a 10 ans pour rentrer dans les écoles d'art et on a toujours dit qu'on en ferait quelque chose parce qu'elle était chouette. Et au moment de mon deuxième enfant et du congé parental, en dehors de m'occuper de moi et de mon bébé, ben, j'ai fait cette histoire et je l'ai proposée et c'est parti comme ça, quoi.
Et donc vous écriviez, c'est vous qui avez écrit aussi l'histoire ? Enfin, quand vous dites que vous avez co-écrit, c'est votre mère qui écrit et vous qui dessinez ? Ou
ouais, là pour le coup ça s'est passé comme ça, elle a écrit l'histoire et moi j'ai dessiné.
Et c'était quand même un processus qui se faisait en même temps ou est-ce que toute l'histoire a été écrite et puis après vous ajoutez, comment ça se passe là ?
Bah, l'histoire s'est faite dans un premier temps, et puis ensuite j'ai repris toute l'histoire, on l'a réécrite pour la réadapter, parce qu'elle avait 10 ans déjà cette histoire. et puis j'ai dessiné, j'ai proposé un manuscrit aux maisons d'édition, et puis Kate Vimbeo elle m'a dit mais c'est super, c'est une histoire qui est ancrée dans le territoire, parce que c'est l'histoire d'une petite fille et de sa grand-mère qui vont à la pêche au crabe.
Et c'est en breton.
C'est en breton, tout à fait. Et ça se passe sur les plages du Finistère Nord, et ils ont émis l'ancrage territorial, et c'était volontaire, c'était un choix volontaire, on voulait vraiment faire une histoire ancrée dans le territoire. Et le fait qu'elle soit écrite en breton...
Dès le départ, c'était en au départ.
Au départ, on l'a écrit en français parce qu'on ne parle pas breton, mais du coup, Kedvin Beo l'a traduite. Et on a trouvé que c'était vraiment intéressant de proposer aussi un livre aux petits bretonnants qui n'ont pas obligatoirement une librairie très variée. Et je pense qu'il y a des choses à faire aussi à ce niveau-là, d'amener un peu de littérature à ces petits bretonnants qui sont quand même vachement nombreux sur le territoire.
Mais oui, surtout sur le Finistère. Alors là, c'est la maison d'édition, c'est qui ?
C'est Kedvin Beo, qui du coup s'est chargée
Ils sont où ? Ils sont à quel endroit ?
Je ne saurais pas vous dire.
C'était la question piège.
Ils sont très gentils.
Oui, d'accord. Et donc, ils ne font que de l'édition en breton ?
Ils font que ça, oui.
Ok, et donc, ils ont besoin d'auteurs ? Et
ils ont besoin d'auteurs, oui, bien sûr. Ouais.
Mais ce n'est pas grave si on n'écrit pas en breton
c'est
au départ.
C'est pas grave, ils traduisent. Ouais.
Ah ouais.
Tout à fait, ouais.
Et donc, ce livre-là n'est écrit qu'en breton, n'existe qu'en breton ?
Il n'existe qu'en breton, ouais.
On ne savait même pas que ça existait, des livres qui n'existent qu'en breton. On pensait que tout passait par le français.
Là, pour le coup, ils ont traduit. Après, pourquoi pas l'éditer en français, hein. C'est carrément une idée qu'on a aussi. Parce que l'histoire plaît. En plus, elle se vend. Ça. Donc, on aimerait bien qu'elle soit lue par le plus grand nombre. Pourquoi pas.
Elle est sortie quand, cette
Elle est sortie il y a une petite année. Et elle vit sa petite vie, tranquillou, gilou.
Et vous en avez refait avec votre mère ou sans votre mère, d'ailleurs, depuis
La deuxième histoire qu'on a sortie cette année, c'est Il me manque un truc, je n'ai pas d'Izzy, aux éditions Petit Que Oui. Et cette histoire, on a écrit un bout d'histoire avec ma maman, qui a été après reprise par l'autrice Soline Bourdevers-Vessière. Et là, c'est l'histoire de Joséphine qui accueille un nouvel élève dans son école qui s'appelle Edgar. Elle est très intéressée par la nouveauté. Elle a très envie de jouer avec lui, mais à chaque fois, elle se fait rembarrer parce qu'elle n'a pas d'Izzy. Donc Joséphine est quand même un petit peu frustrée par cette histoire et elle demande à sa grand-mère comment on fait pousser les Izzy. Enfin, moi, j'aimerais bien quand même jouer avec Edgar.
Bonne question.
Et donc sa grand-mère lui explique que effectivement elle n'a pas d'Izzy, mais elle a autre chose et que c'est tout aussi bien et qu'au final on s'en fout un peu et l'essentiel c'est d'être soi.
Est-ce qu'elle arrive à convaincre son petit ami là de pouvoir de jouer
Ouais, bien sûr, ça se finit bien, mais faut lire l'histoire.
C'est ça. Et donc cette édition, c'est des éditions qui sont spécialisées dans ces thématiques sociales, sociétales, c'est ça?
Petit Kiwi, c'est la maison d'édition Kiwi, et donc Petit Kiwi pour les jeunesses, c'est assez militant. Ouais. C'est vraiment, moi je les ai contactés parce que on a déconstruit les stéréotypes de genre dans cette histoire. On a vraiment parlé de pas mal de sujets, mais le sujet principal c'est celui-là. Et je savais que Petit Kiwi il serait intéressé parce que c'est militant, c'est sociétal, c'est en plein dans l'éducation et dans des sujets d'actualité.
Et alors sur les deux livres, est-ce que vous avez utilisé des techniques de dessin différentes ? Comment vous avez fait vos choix ?
Ouais, la même chose, hein, Digital Nomade. Toujours mon iPad.
Ouais, mais le style de dessin, peut-être pas des techniques, mais des styles de dessin.
Ouais, on évolue. Hein. Moi, je travaille que depuis 2 ans, donc les premiers dessins, maintenant que je les regarde, je les trouve un peu maladroits, même si je les adore parce que c'est les premiers. Et petit à petit, je m'oriente vers un style un peu plus BD.
Ouais, c'est avec, ça, j'ai l'impression, c'est ce que j'allais dire.
Ouais.
C'est plus BD.
C'est plus BD.
Peut-être parce que aussi, c'est des enfants un peu plus grands aussi.
C'est plus grand, ouais.
Il me manque un zizi, c'est ça ?
Il me manque un truc, je n'ai pas de zizi, ouais.
Il me manque un truc, je n'ai pas de zizi.
Puis on est super fiers parce que cette édition, elle a reçu le label de la chaire UNESCO Santé, Sexualité et Droits Humains. Et ça, c'est une super reconnaissance du travail. Et on se dit que du coup, il va vivre une jolie vie avec ce label. Et il va aller chez plein de petits foyers pour que les enfants puissent parler de sexualité, de genre et d'unicité.
C'est ça. Et vous avez envie d'en refaire d'autres dans cette veine-là, alors ?
Ouais, on aimerait bien faire le pendant garçon. Donc, il me manque un truc, c'est vraiment pour tous les enfants, hein, bien sûr, mais c'est l'histoire d'une petite fille.
Ouais.
Et maintenant, on aimerait bien faire le pendant garçon, donc c'est en égo, c'est en discussion, on va dire. Et puis après, moi, j'ai envie d'écrire des livres tout le temps. Donc,
Alors, ouais, c'est ça. Quand on est dessinatrice, illustratrice d'abord, est-ce qu'on a envie aussi quand même d'être auteur pour rejoindre l'interview de tout à l'heure ?
Tout à fait. Moi, j'écoutais. Ouais, bien sûr. Je pense que c'est la suite logique. Je pense que je vais écrire aussi.
Et vous avez écrit un peu, de toute façon, avec votre mère, vous avez quand même un peu écrit précédemment.
Oui, on s'est testé. Et puis, maintenant, j'ai plein d'idées. Donc, et puis, je vois surtout que c'est possible, en fait. Et c'est ce message-là aussi que je voulais faire passer à la jeune fille juste avant. Mais après, elle le sait, elle le voit, mais on peut faire plein de choses. Et ouais, moi aussi, à 36 ans, je me mets à écrire et ça marche, et ça fonctionne, et c'est génial.
Et sinon, maintenant, pour la suite, maintenant que votre carrière est lancée, on va dire, comment vous faites ? Est-ce que vous proposez les projets ou est-ce qu'on vous commande ? C'est les maisons d'édition qui vont vous commander quelque
les
chose ?
Les deux, ouais, les deux. Je travaille pas mal avec les maisons d'édition First, où ils me commandent des livres, là, pour le coup, pour les ados adultes. On vient de sortir SOS Contraception aux éditions First, où on parle vraiment de tous les moyens de contraception féminin et masculin.
Hein. Donc c'est un atlas, c'est quoi enfin,
c'est un guide illustré comme une bande dessinée, sous forme d'une consultation avec un médecin. Et donc on parle de tous les moyens de contraception et on parle aussi de tout ce qui fait nos appareils génitaux propres. Et c'est vachement intéressant parce que moi j'ai appris plein de trucs. Hein. Ouais, faut se documenter, ouais, carrément. En fait, je me suis rendu compte que je savais pas plein de trucs.
C'est de la médiation scientifique, si on veut, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est un peu de la vulgarisation, mais du coup, on essaye de faire des dessins un peu drôles, un peu humoristiques pour que ça parle au plus grand nombre, en fait. C'est la force du dessin.
Bien sûr. Ouais. Comme dans la veine Marion Montaigne, peut-être, non ?
Ah, bah, je sais pas.
oui, d'accord. Vous avez des inspiratrices, quand même, des inspirations extérieures ou pas ? Et des dessinateurs ou des dessinatrices que vous aimez bien ?
Bien sûr. J'en ai plein. En plus, ils sont tous super accessibles et ça aussi, c'est un petit message que je voudrais faire passer aux illustrateurs, c'est que tous les gens qu'on admire, en fait, il suffit de leur envoyer un petit message sur Instagram et en général, ils répondent. Et ça, c'est génial.
C'est vrai. Je sais pas comment ils font. Mais...
Ouais, je sais pas. Moi, ils doivent pas dormir.
C'est ça. C'est ça. Le mystère.
Quand j'ai commencé à dessiner, voilà, j'ai adoré la bande dessinée de Lucille Gomez sur Le pouvoir de la naissance que je conseille à toutes les nouvelles mères et les nouveaux parents. Et voilà, je lui ai envoyé un petit message et on a discuté. Elle m'a aiguillée, elle m'a donné plein de conseils. Avec Paco aussi, on a discuté. C'était super. Ils sont hyper accessibles, hyper gentils, plein de bons conseils. C'est vraiment un beau milieu d'entraide.
Alors, c'est un beau milieu. Et alors, en termes de, je sais pas, économique ou d'avenir, comment est-ce que vous voyez le métier d'illustratrice ?
D'artiste
même en général.
Bon, c'est précaire, hein. C'est pas une découverte. Mais je pense que c'est un des secteurs qui connaît pas trop la crise avec la crise sanitaire qu'on a vécue. Je pense que les gens lisent de plus en plus de livres parce qu'on ne leur a pas laissé trop la possibilité de faire autre chose aussi.
En tout cas, des livres avec des images.
En tout cas, des livres avec des images, peut-être.
C'est vrai, l'édition jeunesse se porte bien.
L'édition jeunesse se porte bien et l'édition tout court se porte bien, je trouve.
Ah oui, ouais. même les livres où il n'y a pas d'images.
Même les livres où
il n'y a pas d'images. On dit que les gens ne lisent
plus. Bah, ils lisent, alors peut-être pas sur les livres, mais sur les tablettes. Mais je pense que l'édition se porte bien. Ouais.
Et après, vous pourriez aussi éventuellement vous orienter vers pourquoi pas le dessin animé, ça vous intéresserait ou pas ?
Ah ouais, bon, ça, ce serait un rêve de gosse. Mais pourquoi pas, ouais, j'adorerais.
On va pas s'interdire de rêver de toute
non,
façon.
Non, bah, clairement pas, surtout pas maintenant qu'on voit qu'en fait
on a qu'une
ça
vie,
fonctionne.
Hein, c'est ça.
Ouais.
Bon, bah, merci beaucoup Violet Suquet.
Ouais.
On termine comme ça joliment notre émission en direct. On était en direct du Salon du Vin, Nature et l'Illustration, donc ce week-end, rue du Général de Gaulle, au Fou, petite cité de caractère. Donc. Il y a un programme, il y a un beau programme. Alors, je vous donne le programme à 18h30, un petit concert du groupe Dernier Cri, qui proposera des textes en français sur de la musique électro. Ça va être joyeux, paraît-il, et on n'en doute pas. Demain dimanche, de 10h à midi, il y a un atelier gravure en accès libre chez Gwenili. Pour ceux qui n'ont pas pu le suivre aujourd'hui, il y aura des dédicaces de Nono, Justine Saint-Lô, Charlotte de Ligneris, Léo à la librairie, une session irlandaise pour manger en musique à 11h30. À 14h, Glenn Chaperon, Benjamin Adam et Erwan Leboc qui proposeront aussi des dédicaces à la librairie Café Gwenili. Et puis une conférence sur le vin nature à 14h. Tout ça donc au Fou jusqu'à 16h demain. Merci. Et merci à Fred Montfort qui était à la technique.
6, 5, 4, 3, 2, 1.
Extramuros.
Extramuros.
Radio Évasion sort de ses murs.
Radio Évasion sort de ses murs.
En direct et en public.
En direct et en public.